Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Voilà, le retour du week-end des experts sur RMC, les animaux et chose promise, chose due, c'est un rendez-vous exceptionnel maintenant qu'on vous propose sur RMC, puisque pendant une heure, une actrice, une comédienne de légende va être à nos côtés, Laetitia, et c'est avec énormément de plaisir que nous allons accueillir...
Brigitte Bardot. Brigitte, bonjour.
Bonjour
Brigitte.
C'est pas comme ça qu'il faut me présenter.
Mais bien sûr, vous êtes
c'est
d'abord...
C'est pas comme une comédienne de légende, c'est comme une protectrice des animaux avec son cœur et sa vie.
Mais Brigitte, voilà. Vous êtes tout ça pour nous. À la fois une comédienne de légende, mais aussi une amoureuse des animaux. Et vous avez accepté cette invitation pour parler de tout ça, pour parler des animaux, bien sûr.
Et vous, et vraiment, un énorme merci, parce que vous vous faites de plus en plus rare dans les médias et surtout sur les ondes. Et c'est vraiment un grand bonheur de vous recevoir. On va parler de vos combats, on va parler des animaux, on va parler de vos coups de cœur et de vos coups de gueule aussi. Hein.
De gueule, oui, il y en a beaucoup plus.
De mais vous savez que depuis... depuis qu'on a annoncé votre arrivée sur notre émission, on a eu énormément de messages, mais de messages de sympathie pour vous. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, c'est pour vous donner un exemple. On a Suzy qui nous dit « Brigitte est une grande dame que j'admire et je suis avec elle pour tout ce qu'elle fait pour mes amis les animaux. » Nathalie, très grand respect pour Brigitte Bardot. Marie-Yvonne, très grande et belle personne. Beaucoup de respect pour Madame Bardot. Je ne manquerai pas, je ne manque pas l'émission, mais
bon, oui, alors c'est voilà.
Mais, et Brigitte, vous. Chaud au cœur, vraiment.
Vous savez,
je vais. Le plaisir est chaud au cœur. Vous savez, bon, tous ces gens qui comprennent mon combat, qui adhèrent à mon combat, qui me soutiennent, c'est la base de tout pour moi. Parce que si j'avais pas ce soutien du public et des gens, je pourrais pas arriver à ce que j'espère faire dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Oui.
C'est pour moi essentiel.
Brigitte, donc voilà, c'est quelques-uns des messages qu'on a cités, mais Laetitia disait, on a reçu des centaines de messages d'amour vous concernant, des gens qui sont ravis ce matin de vous entendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens qui vous suivent?
J'embrasse.
Et puis surtout, Brigitte, pourquoi être aussi silencieuse dans les médias, alors que tous ces gens attendent d'avoir des nouvelles de vous?
Ben, je vais vous dire, parce que je trouve que faites-vous rare, on vous aimera. C'était un proverbe que mes parents m'ont répété souvent dans mon enfance. Et c'est vrai que plus on voit les gens, plus on s'en lasse. On se lasse de trop de médiatisation. Et puis moi, c'est plus mon truc, ça. J'aime pas trop. Alors, je fais ce qui me paraît important et pour les émissions pour lesquelles je bats mon cœur, voilà.
Oh.
Et dont vous faites partie.
Oh, c'est tellement gentil, Brigitte,
vous écoutez
merci.
La radio quand même.
Ben, je l'écoute pas le matin de bonne heure parce que je dors.
Ah, Brigitte, si vous voulez, on vous réveille le dimanche matin. On peut vous appeler. On peut vous appeler, on peut vous passer un petit coup de fil pour que vous nous retrouviez. On plaisante, bien sûr. Mais ça vous touche vraiment d'avoir tous ces messages d'auditeurs qui vous envoient des petites preuves d'amour?
Énormément. Si vous saviez le courrier que je reçois, et je puise mon courage dans ces courriers, dans ces messages d'amour et de soutien. C'est très important pour moi, vraiment. Je vous jure que c'est très important et c'est émouvant et ça me touche vraiment au cœur.
Mais écoutez, ça fait quand même 40 ans que vous êtes engagé pour la cause animale. Vous avez fondé votre fondation, hein, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Alors, on va commencer par un sujet d'actualité. Vous savez que j'ai lu ce matin qu'on annonçait encore 60 000 abandons cet été de chats et de chiens. Alors, on a l'impression que c'est un combat sans fin. Est-ce que c'est votre impression aussi?
C'est épouvantable. Depuis le temps qu'on répète et qu'on dit aux gens de ne pas abandonner leurs animaux, il y a des tas de solutions, il y a des tas d'hôtels qui acceptent, il y a des campings qui acceptent, il y a des gens qui viennent chez les gens pour promener, nourrir les chiens ou les chats pendant la période de vacances. Il y a des pensions qui sont absolument formidables et charmantes, où on peut vraiment laisser son chien et son chat. Et ça continue, et ça continue. Et les gens n'ont aucun respect pour la vie de leurs animaux. C'est, vous savez, l'être humain, plus je vieillis et plus je vois ce que devient ou ce qu'est toujours l'être humain, c'est vraiment un être déshumanisé qui ne mérite pas ce nom d'être humain.
Mais vous savez, les animaux peuvent nous humaniser aussi.
Non, mais oui, bien sûr, mais alors on les abandonne pas dans ces cas-là.
Mais d'après vous, qu'est-ce qui favorise aussi les abandons? Parce que, par exemple, on a parlé en Espagne, il y a beaucoup d'abandons, on a parlé de la crise. Est-ce que pour vous, c'est un.
Écoutez, la crise à l'abandon, il y a toujours une crise, il y a toujours une allergie à ceci, à cela. Il y a un divorce, il y a je sais pas quoi, des gosses qui supportent pas, ou il y a toujours quelque chose qui doit permettre aux gens d'abandonner leurs animaux. Or, c'est scandaleux. Ils les abandonnent pourquoi? Parce qu'ils foutent le camp en vacances et que ça les encombre d'avoir un animal pour lequel il faut payer 5 euros par jour dans un hôtel supplémentaire ou une pension où ça coûtera 10 euros par jour. Bon, bah, ma foi, un animal, la vie d'un animal qui est un compagnon qui fait partie de la famille, ça vaut bien ce prix-là quand même. Et puis, je sais pas, moi, je préférerais me priver de vacances que d'abandonner un animal. Mettons que j'ai pas beaucoup d'argent, je resterai chez moi, mais je n'abandonnerai pas mon animal. Et on a beau expliquer aux gens, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Et ça, c'est dramatique.
Brigitte, quand on vous entend, alors évidemment, ce discours, on le connaît de votre part. Hein, souvent, vous criez justement votre désespoir concernant ce sujet-là. Mais depuis quand êtes-vous amoureuse, autant amoureuse des animaux? Depuis toujours?
Oui, oui, je suis née avec.
Vous êtes née avec des animaux?
Non,
autour de
je
vous?
Je suis née sans animaux et j'ai passé mon enfance sans animaux. Parce que c'était en pleine période de guerre et que là, c'était impossible d'avoir un animal, entre les bombardements et les privations de nourriture. Mais je suis née avec l'amour des animaux. J'ai toujours eu en moi cette passion des animaux, sur des images, sur des livres d'images, sur des... Quand j'allais voir, quand mes parents m'emmenaient voir des dessins animés de Walt Disney et tout ça, et j'étais complètement subjuguée par l'amour que je portais à tous ces animaux. Et dès que j'ai pu avoir des animaux, dès que j'ai pu être seule, indépendante, sans habiter chez mes parents, j'ai pris tout de suite un chien.
Et aujourd'hui, vous en avez combien?
Oh, maintenant, je ne sais plus. Quand on aime, on ne compte pas, j'en ai au moins 12.
Alors attendez, vous avez quoi, 12 chiens ou 12 animaux?
Oh non, j'ai une centaine d'animaux chez moi.
Waouh! Quand même.
Oui. Une centaine? Mais alors attendez.
Oui,
non, mais vous. Ouais, mais vous avez quoi? Des chats, des chiens, des tortues,
alors,
des oiseaux? Qu'est-ce que vous avez?
J'ai un chat, une dizaine de chiens. J'ai des chevaux, un âne, des chèvres, des moutons, des cochons, des poules, des oies, des canards.
Vous avez l'arche de Noé.
Dites-moi.
C'est l'arche de Noé.
Mais comment faites-vous? Vous vous en occupez personnellement de ces animaux, Brigitte?
Alors maintenant, je suis un peu handicapée, vous le savez. Bon,
oui.
J'ai du mal à marcher.
Vous avez mal aux jambes.
Alors, j'ai chez moi des gens qui m'aident à m'occuper des animaux. Mais je continue à m'occuper des animaux. Je peux pas porter un seau, par exemple.
Oui.
Je peux leur donner le seau sous le nez.
D'accord. Mais voilà. Que vous apportent les animaux, en fait?
Oh, écoutez, ça m'apporte un bien-être que vous n'imaginez pas. Là, je vis dans ma petite ferme actuellement. Je ne suis pas à la Madrague. Je suis là où j'ai tous mes animaux. Si vous saviez comme le calme est beau, comme la nature est apaisante, et comme la vue de tous ces petits animaux qui sont sauvés, tous des abattoirs, ils ont tous été condamnés à mort, et je les ai sauvés vraiment de justesse. Et quand je les vois heureux, heureux, reconnaissant, gentil. Ça m'apaise, ça me fait du bien, ça me donne du courage et ça me transcende. Voilà.
Alors, vous savez, Brigitte, il y a certaines personnes qui ont ce que j'appelle, moi, un don pour communiquer avec les animaux, pour avoir leur confiance immédiate. Est-ce que vous avez ce don ?
Ah, évidemment. Ah, évidemment, bien sûr que je l'ai. J'ai ce don et les animaux ont le don aussi de me faire confiance. Je sais pas, c'est un échange de confiance, de d'amour, de je sais pas quoi, d'ondes qui se correspondent. C'est très extraordinaire le rapport que j'ai avec les animaux.
D'accord.
Et vous n'avez pas de phobie animale ?
Les phobies, c'est quand on n'aime pas.
Oui, si par exemple, je sais pas moi, Laetitia n'aime pas les araignées, par exemple.
Oui, je me suis guérie.
Je leur fais pas de mal. Je vous jure, jamais je ne détruirai une toile d'araignée.
D'accord.
Alors chez moi, de temps en temps, c'est pas très propre.
Mais vous savez, quand on dit...
Il y a les serpents, j'aime pas trop.
Oui, c'est vrai que c'est pas terrible, le serpent.
Les serpents,
d'accord.
Je leur ferai pas de mal, mais ils me font un peu peur.
Bon, alors Brigitte, maintenant qu'on sait que vous avez peur des serpents... On va revenir dans un instant, d'accord ? Et on va poursuivre avec, évidemment, plein de questions que nous avons avec Laetitia Barlerin. Brigitte Bardot est notre invitée ce matin sur RMC. Jusqu'à 7h, on a plein de questions à lui poser. Jusqu'à 8h, pardon. Et on a plein de questions à lui poser. On revient dans une minute. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, c'est le retour du week-end des experts des animaux sur RMC. Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h. Vous le savez, les animaux, c'est chaque samedi 6-8 sur RMC, tous les dimanches. Et un invité exceptionnel, une émission exceptionnelle, puisque Brigitte Bardot nous fait l'amitié, la gentillesse d'être avec nous en ce dimanche matin, Laetitia.
Oui, et Brigitte, on vient de parler avec vous de votre amour des animaux, de vos animaux. Alors, on va passer à des sujets sérieux, des combats.
Un peu plus dur.
Un peu plus dur. Alors, parlons d'abord de l'abattage rituel. C'est un sujet d'actualité parce que cette semaine, vous avez adressé une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur l'abattage rituel. Vous lui demandez une entrevue. Qu'avez-vous à lui dire ? Et d'abord, vous a-t-il répondu, d'ailleurs ?
Non. En général, il ne me répond jamais.
Bon.
Aucun membre du gouvernement...
Ils ne peuvent pas accéder à mes demandes.
Brigitte, est-ce que quand vous envoyez des lettres comme ça, il y en a qui vous répondent malgré tout ?
Bon, au début de son quinquennat, François Hollande m'a répondu.
Oui.
Mais comme il me répondait toujours qu'il ne pouvait rien faire, maintenant il ne me répond plus.
D'accord.
Bon.
Et ses ministres, c'est pareil. Ils répondent très rarement. Et quand ils répondent, c'est pour dire que ils sont désolés, mais qu'ils ne peuvent pas accéder à ma demande.
Alors, voilà. Qu'est-ce que vous demandez exactement, Brigitte ? Expliquez-nous ce matin.
Ben, je demande beaucoup de choses. Dernièrement, là, j'ai écrit à Cazeneuve parce que j'ai vu qu'ils ont fait ami-ami avec l'islam de France et que ça représente pour moi quelque chose d'absolument atroce. Parce que les... Moi, je veux bien qu'on fasse ami-ami avec des musulmans, etc. Mais à ce moment-là, il faut que les musulmans acceptent les lois françaises d'abattage d'animaux. Et il y a une chose qui me scandalise et qui me fait du mal, mais depuis des années, c'est qu'on accepte toujours en France l'abattage rituel, c'est-à-dire le sacrifice de l'animal sans étourdissement préalable.
Alors ça, c'est pour les cultes...
C'est abominable pour l'animal de souffrance et de stress.
Alors ça,
on les égorge à vif.
Voilà.
Sans qu'ils se rendent compte, enfin, en se rendant compte plutôt de ce qui leur arrive.
Oui, parce que...
Ils ont à peine le cou coupé, qu'on les pend par les pieds et que le sang s'écoule et que ça les étouffe, et qu'ils savent plus que c'est affreux, ils mettent des minutes à mourir, et c'est une horreur. Tandis que la loi française, j'ai été battue à l'époque pour la faire voter, cette loi, exige que l'animal soit étourdi d'une façon ou d'une autre, soit électriquement, soit avec un gaz, comme une anesthésie avant une opération.
D'accord, donc
Parce que le sacrifice... rituel, c'est comme une opération de sans anesthésie.
D'accord. Okay.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une souffrance qui pourrait être évitée. La loi française demande qu'on étourdisse l'animal. Or, les musulmans ne veulent pas se plier à cette coutume, à notre coutume, à nous, à notre loi.
Bah,
alors là, ça me pose un gros problème, parce qu'on ne peut pas continuer à égorger, à vivre de plus en plus d'animaux, surtout pendant les fêtes de l'Aïd el-Kébir, qui sont des fêtes traditionnelles musulmanes, et qui arrivent à grands pas au mois de septembre, il y en a une fois par an. Et là, il y a des millions de moutons qui sont égorgés dans la journée. Dans la journée.
Alors, pour un peu replacer les choses, Brigitte, concernant l'abattage rituel, l'abattage classique, c'est vrai, il y a une loi qui est européenne qui impose d'étourdir l'animal juste avant l'abattage. Et on a un problème, il y a une dérogation qui est faite pour les abattages dits rituels, de culte musulman, vous en avez parlé, mais aussi de culte israélite, qui autorise, et ça c'est exceptionnel dans les abattoirs, de ne pas justement étourdir l'animal avant la saignée.
On l'égorge alors qu'il est conscient.
De cette dérogation. Évidemment que je connais cette histoire-là. Étant donné que j'ai été voir, moi, Dalil Boubaker, il y a une dizaine d'années, avec son grand moufti, ils m'ont donné l'assurance que la loi et la religion islamique n'empêchait pas l'abattage, l'étourdissement avant l'abattage. Parce que l'étourdissement ne tue pas l'animal. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'animal soit vivant. Il est certain qu'on ne peut pas consommer un animal mort, car le cœur s'arrête et le sang ne sort plus du corps. Et à ce moment-là, la viande n'est pas consommable. Alors, j'ai eu l'affirmation de Dalil Boubaker et de son grand moufti, qui était là ce jour-là.
Voilà, qui est le recteur de la mosquée de Paris.
Oui, le recteur de la mosquée de Paris et son grand chef religieux. Ils étaient tellement d'accord pour que les musulmans acceptent l'abattage avec
étourdissement
préalable, qu'il en avait même convoqué la presse pour les prévenir.
Et ça ne s'est pas fait, Brigitte ?
Et ça ne s'est pas fait.
Alors, justement, est-ce que vous savez que les politiques, alors très peu d'élus veulent s'engager sur ce terrain-là, par peur de l'amalgame, vous le savez, on peut les accuser de stigmatiser certaines communautés religieuses. Est-ce qu'il ne faut pas aller justement vers ces communautés et discuter avec elles ?
Mais écoutez, les discussions, elles ont eu lieu. Maintenant, j'ai été voir, à l'époque, c'était Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Maintenant, c'est Cazeneuve. C'est pour ça que je m'adresse à Cazeneuve. Et Sarkozy m'avait juré qu'il allait faire le nécessaire. Puisque Dalil Boubaker, le grand recteur de la mosquée de Paris, était d'accord, ainsi que son grand moufti. Et qu'il n'y avait aucune obligation pour la religion musulmane de le faire à vif à du moment que l'animal était vivant.
Voilà, et on a compris que ça n'a pas été fait, même si Nicolas Sarkozy, vous l'avez juré.
Ça fait des années que je me bats contre ça, parce que je ne supporte plus de voir qu'il y a de plus en plus de clients musulmans, puisqu'il y a de plus en plus de musulmans en France, donc il y a de plus en plus d'animaux qui sont tués à l'âle, alors qu'avant, il y en avait très peu.
Brigitte.
Et comme il y en a de plus en plus, maintenant, pour aller plus vite dans les abattoirs, ils ne respectent plus la loi française. Et beaucoup d'abattoirs abattent tous les animaux halal pour que ça aille plus vite.
Brigitte, on va revenir dans un instant sur RMC. Est-ce que vous connaissez Zaya, Brigitte ?
Zaya.
Non, vous ne la connaissez pas. Alors, vous savez quoi ? On va vous la présenter dans un instant, on va vous la décrire et vous allez nous donner... Pardon ?
Qui a ouvert une boutique de je ne sais pas quoi.
Voilà, et qui a posé nu.
Qui a surtout posé nu pour une campagne pour la cause animale.
Et vous...
Elle est très, très charmante et elle est inscrite à la fondation.
Brigitte, vous savez qu'on va en parler dans un instant car l'heure tourne, il est bientôt 7h30. On revient après la météo et les infos. Vous voyez, Brigitte connaît Zaya. A tout de suite sur RMC.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlera, une petite question flash. Miaou. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Ludovic que nous avons reçue par mail animaux@rmc.fr. Et si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, les amis. Est-ce vrai qu'un chien adopté dans un refuge cherche toujours à fuguer car il recherche toujours son premier maître? Vous demande Ludovic.
Alors c'est une idée reçue. Elle est en partie vraie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens qui, nouvellement adoptés, qui fuguent. Alors pourquoi ils fuient? C'est pas parce qu'ils recherchent leur premier maître, c'est pas du tout ça. En fait, ils recherchent un endroit où ils se sentent pas encore quelqu'un de la famille qui vient d'être adopté. Vous savez, il faut un certain temps avant d'être vraiment intégré dans une famille. Donc quelque part, il est sur son territoire.
Il a pas conscience qu'il est chez lui.
Voilà,
donc il s'en va.
Voilà, parce qu'en plus dans le refuge, il voit des personnes qui changent tous les jours. Donc il s'attache pas forcément à une personne. Là, on le met dans une famille qu'il connaît pas, c'est pas son territoire. Donc quelque part, il s'en va. Et puis aussi, il y a une deuxième chose, c'est que dans le refuge, il avait des copains.
Ah oui.
Et si vous le laissez seul, et ben il a plus ses petits copains. Donc il veut aller les retrouver. Donc, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, vous bouclez bien les portes et les portails, et puis surtout, vous multipliez les interactions avec ce chien adopté. Mmh. Les jeux, les sorties, vous lui faites bien prendre conscience que maintenant, vous êtes son nouveau maître, que vous lui apportez beaucoup de bien, que cette maison est la sienne, que ce territoire est le sien, et après, il va se sentir tellement bien qu'il va rester et ne pas vouloir fuguer. Mais il faut beaucoup s'occuper de lui, et ça, c'est très important pour vraiment l'intégrer dans sa nouvelle famille.
Et petit à petit, les semaines et les mois passant, Laetitia...
Il faut laisser le temps au temps, comme je dis souvent. Mmh. Hein, c'est vraiment lui donner des rituels, l'entourer...
Le rassurer. L'aimer, tout simplement.
Tout simplement.
Et 32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend, n'hésitez pas.
RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts sur RMC, les animaux. Et en ce dimanche 21 juin, c'est un invité exceptionnel, hein, une invitée exceptionnelle que nous avons, Laetitia Barlerin, puisque Brigitte Bardot nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin jusqu'à 8h. Brigitte, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation en ce dimanche matin. Merci.
Ça fait plaisir.
Alors vous êtes pas, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas à la Madrague là, donc dans le Var, à côté de Saint-Tropez.
Vous êtes dans votre ferme.
Vous êtes dans votre ferme, c'est ça ?
Dans ma ferme, avec tous mes animaux.
D'accord.
Et elle est dans quelle région cette ferme ?
Elle est à Saint-Tropez.
À Saint-Tropez. Ah, d'accord. Donc vous n'êtes pas très loin de votre résidence mythique, la Madrague, on va dire.
Je suis pas très loin, mais là au moins, personne ne sait que je suis là et tout le monde me fout la paix.
Bon, enfin là maintenant tout le monde le sait, puisque vous venez de le dire.
Ah, mais ça ne pas où c'est.
Ah, c'est pour ça. Et donc là, vous n'allez pas nous le dire.
Ah bah non, bah non.
Bon, alors, Brigitte.
On parlait de Zaya. Qui pose nue là pour la cause animale, ça fait le buzz en ce moment.
Elle est vraiment nue en plus. Hein.
En plus, elle est vraiment nue. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, j'ai pas vu ce truc-là.
Bah écoutez, elle est nue.
Au-delà de Zaya, voilà. Bon, qui est une anecdote, que pensez-vous de ces femmes qui vont jusqu'au fait de se mettre à nu pour défendre la cause animale ? Vous êtes d'accord avec ça ou ça va un peu trop loin ?
Bon, moi je sais pas en quoi. Le fait d'être à poil peut défendre la cause animale plus. Pika avait fait une très belle campagne de pub il y a quelque temps en disant plutôt nu qu'avec de la fourrure. Ça, j'avais trouvé que c'était formidable. Mais maintenant, bon, c'est copié, et je vois plus. J'ai pas vu Zaya, je sais pas.
Allez, ce qu'elle peut se raconter. On peut se demander aussi, peut-être qu'elle fait ça simplement pour faire sa propre publicité.
Peut-être. Et vous, est-ce que vous trouvez toujours la fourrure vulgaire ?
Bah, c'est pas que je la trouve vulgaire, c'est que je la trouve absolument incroyablement cruelle. Porter de la fourrure, c'est une preuve de cruauté épouvantable. Parce que, bon, maintenant on fait des fourrures synthétiques qui sont absolument géniales et qui ressemblent totalement à la vraie fourrure. Et la vraie fourrure, c'est la mort gazée ou électrocutée de centaines de visons, de renards ou de petits animaux qui donnent leur vie et qui sont en plus qui sont élevés dans des conditions absolument atroces, les petits lapins qui sont dans des clapiers les uns sur les autres, dans une saleté repoussante, dans des caves où ils ne voient jamais le jour, et tout ça me dégoûte infiniment, et les femmes qui portent de la fourrure me dégoûtent encore plus. Voilà.
Vous savez, dans cette émission, on dénonce justement les conditions de d'abattage et d'élevage de ces animaux pour la fourrure, mais après, vos détracteurs vous disent que vous avez aussi porté de la fourrure.
Fourrure et j'ai mangé de la viande.
Et vous mangez plus de viande aujourd'hui?
Depuis 40 ans, je mange plus de viande.
Vous êtes végétarienne?
Absolument.
Et non pas végétalienne?
Non, alors là, je pousse pas le bouchon à ce point-là.
D'accord. Mais vous savez, comme la fourrure revient à la mode, vous le savez, que peut-on dire à ces jeunes filles qui veulent suivre la mode?
Écoutez, j'ai écrit à plusieurs couturiers en leur disant que eux pouvaient mettre un frein à la fourrure, parce que en présentant moins ou en en présentant plus dans leur collection, en leur demandant qu'ils fassent ce geste pour les animaux, pour en prenant de la fourrure synthétique qui peut être formidable aussi. Bon, on a le moyen maintenant d'imiter la fourrure d'une façon extraordinaire, ce qu'on n'avait pas avant. Et puis maintenant, on n'a plus besoin de se mettre des fourrures, on ne crève plus de froid, on vit pas en Sibérie.
Oui, c'est pas bio, quoi.
Vraiment, c'est un signe extérieur de richesse ou de snobisme qui est en fin de compte une immense cruauté. Et si ces femmes, qui sont en général des femmes futiles, idiotes en général, parce qu'elles comprennent rien, et quand on comprend rien, c'est qu'on est stupide et con. Alors, ces bonnes femmes-là, je trouve qu'elles n'ont aucun intérêt et que leur fourrure, ça les rend pas plus belles. Au contraire, ça les rend encore plus moches, moi, je trouve. C'est vrai, parce qu'en général, souvent, elles sont vieilles et elles se disent qu'en se mettant des belles fourrures, on aura l'air plus jeune. Elles ont l'air encore plus vieilles et méchantes.
Il y a beaucoup de comédiennes encore, Brigitte, qui pose avec des fourrures.
Catherine Deneuve.
Ah, et ça n'a pas vous plaire, alors?
Il n'y a pas qu'à moi que ça ne plaît pas.
Et mais vous la connaissez personnellement, vous lui avez dit?
Elle parraine un élevage de lapins spéciaux aux fourrures. Ah. Ils s'appellent des onyx, je crois, ou des trucs comme ça, oryx.
D'accord. Et vous avez jamais pu discuter de ça avec elle?
Oh, qu'est-ce que vous voulez discuter avec Catherine Deneuve et ses fourrures? J'ai autre chose à faire.
Non, mais étant donné que c'est quelqu'un quand même de très médiatisé, vous pourriez essayer de la sensibiliser, justement.
Non, rien à faire. Bon, je sais que les femmes qui portent de la fourrure, c'est comme les gens qui mangent de la viande. On peut leur dire que ce qu'ils mangent, c'est un animal qui était encore vivant il y a quelque temps, il y a 3-4 jours. Ils continuent à bouffer de la viande. Voilà.
D'accord, ouais. Il y a d'autres comédiennes comme ça que vous soupçonnez de porter de la fourrure?
Écoutez, les autres, elles sont moins connues et je les connais pas parce que maintenant je connais plus trop les comédiennes.
Vous intéressez malgré tout toujours à l'actualité du cinéma? Vous suivez le cinéma?
Pas. Je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Ah. Mais vous savez que là, il y a vraiment une question que se pose tous les auditeurs, je pense. C'est, vous avez arrêté en 73 votre carrière cinématographique, vous l'avez abandonnée alors que vous étiez au plus haut.
Donc il y a 42 ans.
Il y a quand même 42 ans pour vous consacrer entièrement, pour donner votre vie pour les animaux. Alors, on comprend de donner sa vie pour les animaux quand on aime les animaux, mais quel a été le déclic qui a vraiment été quelque chose qui vous a poussé à changer de vie comme ça?
Ah oui, ça, pour changer de vie, j'ai changé de vie.
Ah bah oui, c'est
incroyable. Et je vais vous dire, il faut beaucoup de courage. Parce que j'ai décidé et je suis jamais revenue sur ma décision. Jamais. Donc du jour au lendemain, j'ai tourné une page et je l'ai tournée parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'expérience de ma vie, j'avais quand même 38 ans à ce moment-là, que les animaux étaient très très mal, très mal, très traités dans le monde et en France en particulier. Enfin, ce que je voyais en France m'avait choqué, m'avait déplu, m'avait scandalisé parfois.
Mais Brigitte, peut-être que vous étiez arrivée aussi à la fin d'un cycle et que le cinéma... Comment envisagez-vous le cinéma à l'époque? Pour vous, vous aviez fait ce qu'il fallait faire et vous vouliez vraiment tourner la page?
Écoutez, je sais pas. Il y a un concours de circonstances qui ont fait que tout d'un coup, j'ai eu envie de donner ma vie à une chose qui avait une importance capitale pour moi, c'était la protection animale. Bon.
Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a décidé?
Au moment où je tournais mon dernier film, celui de Nina Companese, là, qui s'appelait Colline aux trousses chemises, il y avait évidemment des figurants, on était en costume et tout le fourbi, et il y avait une chèvre qui était là avec une figurante, et la bonne femme me dit, moi j'étais voir la chèvre, parce que j'étais attirée vers la chèvre, et la bonne femme m'a dit, j'espère que votre film, votre scène elle va terminer dimanche, parce qu'on tue la chèvre pour faire un méchoui pour la communion de mon petit-fils.
Oula, ça n'a pas dû vous plaire, ça.
Alors moi, j'ai immédiatement racheté la chèvre, et je l'ai emmenée dans mon hôtel 6 étoiles, avec ma chienne que je venais d'adopter aussi. Et
vous avez apporté la chèvre
tout ce petit monde dans ma chambre.
Vous avez apporté la chèvre dans l'hôtel?
Oui, la chèvre dans ma chambre, elle a dormi dans mon lit.
Eh bien, dites-moi, je pense que le patron de l'hôtel devait être ravi.
Écoutez, ça les a amusés plus qu'autre chose. Donc c'était plutôt rigolo.
Brigitte, à partir du moment où vous avez tiré un trait sur le cinéma, j'imagine que vous avez eu d'énormes sollicitations de la part des plus grands réalisateurs, etc., des producteurs. Jamais vous avez failli recraquer et repartir dans une carrière cinéma?
Jamais. Ah non, quand moi je prends une décision, je vais jusqu'au bout.
Mais attendez, pour les animaux, jusqu'où vous iriez pour les animaux? Est-ce que vous iriez jusqu'à refaire un film, par exemple? Non. Ou faire une émission?
Non, mais j'irais jusqu'à donner ma vie.
D'accord.
Bon, on peut vous imaginer aussi, je ne sais pas, faire une émission sur les animaux?
Vous savez, je l'ai fait, ça. J'ai fait des SOS pendant 2 ans.
Oui.
Qui passaient tous les 3 mois à la télé. Et ça avait été des émissions extraordinaires. Parce que ça avait vraiment montré la détresse animale, sauvage ou domestique. Et ça avait été vraiment un succès extraordinaire. Et je sais pas s'il y a eu une embrouille entre les patrons de TF1, le producteur et tout le fourbi. Et bon, on a arrêté les émissions. Et c'est dommage, parce que ces émissions étaient très instructives pour le public. Parce que vous savez, le public, il est de pleine bonne volonté, mais il est ignorant de ce qui se passe. On leur montre pas vraiment, parce qu'ils ne veulent pas choquer les gens. Alors on montre pas les images qui sont les plus choquantes et qui font prendre les plus grandes décisions. Et si on les montre pas, alors les gens ne comprennent pas certaines réactions de ma part.
Brigitte, on va revenir dans un instant. Ouais. À tout de suite, c'est RMC.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Et toujours ce week-end des experts exceptionnels dédiés aux animaux. Avec Laetitia Barlerin à mes côtés et Brigitte Bardot qui nous fait l'amitié, la gentillesse d'être avec nous depuis 7h ce matin, une heure entière avec Brigitte Bardot, amoureuse des animaux et qui nous fait partager sa passion des animaux ce matin.
Alors Brigitte, vous savez que l'animal vient d'être reconnu comme un être sensible dans le code civil, ce qui n'était pas depuis des années.
Oui, je sais, mais c'est la plus grosse histoire-là.
Alors, est-ce que c'est encourageant pour vous? Est-ce que c'est quand même un signe que la société évolue vers un meilleur respect de l'animal?
Écoutez, c'était déjà dans le code rural que l'animal était un être sensible, etc. Et c'était pas dans le code civil. Alors c'est passé du code rural au code civil, et c'est tout à fait normal parce que le code civil n'était pas en adéquation avec le code rural. Mais ça a toujours été dit et proclamé dans le code rural, ce qui est le plus important en ce qui concerne les animaux. Mais c'est de la poudre aux yeux cette histoire-là, parce que ça ne concerne pas l'expérimentation animale, ça ne concerne pas les élevages en batterie, les élevages intensifs, ça ne concerne pas la chasse, ni la tauromachie, ni rien du tout.
Pour vous, c'est insuffisant ce qui a été fait?
Ça ne veut rien dire, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Donc Brigitte, malgré tout, alors même si vous trouvez que c'est la poudre aux yeux, c'est une petite avancée dans le domaine du statut de l'animal qui a été faite, qui a été réalisée sous le, on va dire sous la présidence de François Hollande. C'est plutôt positif, non? François Hollande aide les animaux.
Ah bon?
Je vous pose la question. Qu'en pensez-vous?
Eh ben, j'en pense que pas du tout.
Donc c'est pas un bon.
Le gouvernement actuel, on n'en tirera rien. Bon, j'aurais demandé, il y a une proposition de loi qui est déposée depuis 2 ans, exactement, à l'Assemblée par Nicolas Dupont-Aignan pour faire passer le cheval d'animal de rente à animal de compagnie. Personne n'a jamais parlé ni mis en valeur cette proposition de loi. Et pourtant, vraiment, l'hypophagie à notre époque, c'est quasiment terminé. On continue à tuer des chevaux, on envoie la viande en Italie, etc. Mais en France, à part dans le nord de la France, on mange très peu de cheval. En tout cas, les jeunes générations ne mangent plus de cheval. On pourrait très bien faire passer le cheval d'animal de rente à animal de compagnie.
Est-ce qu'il y a un homme politique ou une personnalité politique qui vous écoute plus qu'une autre lorsque vous leur parlez?
Mais personne n'écoute. Personne n'écoute ce qu'on dit. Personne ne change quoi que ce soit. La seule chose qui est changée, c'est que maintenant, on a accepté, enfin le gouvernement a accepté, contre l'avis de tous les agriculteurs, ils ont accepté l'usine des 1000 vaches.
Oui.
C'est un scandale, ça.
C'est vrai.
Une horreur. Qui n'a rien à voir avec le code rural et le code civil. Parce que l'animal est un être sensible, mais là, on s'en fout de la sensibilité des vaches. Elles sont dans une usine, et c'est à la chaîne qu'elles mangent, qu'elles sont prêtes, et qu'elles dorment, etc. Elles ne voient jamais une prairie, et jamais le soleil, jamais. C'est scandaleux, cette usine des 1000 vaches. Mais voilà ce que fait le gouvernement.
Alors, l'usine de 1000 vaches, des 1000 vaches, là, la ferme, c'est vrai que c'est une usine à vaches, hein. La ferme des 1000 vaches a ouverte pour 500 têtes, 700 bovins, et il semblerait qu'il y en ait plus de 800, donc elle est déjà en infraction. Est-ce que, pour vous, le bien-être animal, c'est ce dont on parle dans ces problèmes, est-ce que c'est compatible avec une rentabilité économique? Est-ce qu'on peut vraiment élever un animal et être rentable?
Écoutez, la rentabilité est en train de prendre le pas sur tout ce qu'il y a de beau et de noble dans notre monde, sur notre terre. On ne parle que de fric. Et le fric gâche tout, abîme tout. Et cette rentabilité, elle devient scandaleuse parce que la vie des animaux, c'est pas, on voit pas la vie des animaux et la façon dont on les élève dans une usine maintenant. Avec la rentabilité, il y a toujours eu des vaches dans des prés, il y a toujours eu des éleveurs de bovins, mais on n'a jamais encore fait d'usine. Où on va comme ça maintenant? Où est-ce qu'on va? L'humanité va vers quoi? Vers une industrialisation totale de tout? Il n'y aura plus rien de naturel?
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde à nourrir aussi, Brigitte.
C'est pour ça qu'il faudrait filer la pilule à beaucoup de bonnes femmes dans le monde, parce qu'il y a beaucoup trop de reproduction d'êtres humains qui prennent la place et les espaces qui sont dus aux animaux. Et ça, c'est dramatique ce qui se passe actuellement.
Oui, mais on peut pas empêcher aux gens de se reproduire, Brigitte.
On peut peut-être empêcher qu'ils se reproduisent infiniment trop vite. Vous avez vu la démographie? C'est ça qui est, en fin de compte, la base de tous les soucis et de tous les problèmes d'immigration, de chômage, de maladie, de tout. Il y a trop de démographie galopante sur cette terre. C'est atroce ce qui se passe là.
Vous avez pas
on n'aura plus jamais de. On va tuer tous les forêts, les ça va polluer toutes les rivières, les océans. C'est abominable ce qui se passe.
Alors, quand même, pour être dans le positif, Brigitte, ça fait 40 ans que vous luttez pour les animaux. Alors, quelles ont été vos plus belles victoires? Parce que vous en avez eu des victoires.
Alors, la plus belle est celle qui a mis 30 ans à se résoudre, c'est les phoques.
Ah, les bébés phoques.
Les bébés et les phoques. Il n'y a pas que les bébés.
Oui, parce qu'on ne sait pas, mais la décision de la Commission européenne d'interdire l'importation, enfin le commerce, des produits issus des phoques...
De tous les pimipèdes.
Et tous les pimipèdes, c'est en partie du aveu, quand même.
Ah, ça, oui. Ah, ça, oui.
Mais on se souvient de votre combat sur ce sujet. Hein.
Non, mais non seulement j'y étais il y a 30, je ne sais plus combien d'années, mais quand j'y suis retournée en 2006... Après, je suis reparti à Bruxelles voir Stavros Dimas, qui à l'époque était le président de la Commission européenne.
Oui.
J'ai eu une grande conversation avec lui. Je revenais du Canada et je lui ai montré des images très choquantes de ce qui se passe là-bas. Et cet homme, qui est un Grec, qui est un homme tout à fait remarquable, a mis quelques années, je crois, 5 ou 6 ans, à convaincre tous les homologues de toute l'Europe pour qu'on fasse un embargo sur les produits dérivés provenant de tous les pimipèdes, c'est-à-dire phoques, otaries, etc. Et c'est vraiment à moi qu'on le doit, mais aussi à Stavros Dimas, parce que cet homme a écouté, a vu, a compris et a été choqué et a fait le nécessaire. Et ça, je trouve que c'est remarquable.
Et demain, quel combat, vraiment, quel est le combat de votre vie pour demain?
Alors, bon, en ce moment, on a aussi, en Bulgarie, on a ouvert un centre magnifique pour mettre tous les ours dans le sang. Qui ont le nez arraché, les pattes brûlées, etc. Les ours qu'on faisait danser avec des tambourins en les mettant avant sur des braises incandescentes pour qu'ils lèvent les pieds au son du tambourin. C'est scandaleux de faire ça. On les a tous rachetés ou on les a récupérés, on les a mis dans un centre où ils sont heureux, mais où ils gardent des séquelles de leur misère physique. Et où ils gardent encore le stress de ce qu'on leur a fait subir. Mais enfin, il y a des hectares et des hectares de forêts en Bulgarie extraordinaire où on a mis ces ours. Et ça, c'est une grande victoire
plus
aussi.
Brigitte, plus près de chez nous, il y a la corrida, bien sûr.
Alors la corrida, je vais vous dire, c'est scandaleux
que le
Premier ministre, il est tauromaniaque.
Manuel Valls
trouve que c'est formidable la corrida, mais c'est un massacre, c'est dégueulasse, c'est... Oh, écoutez, je suis scandalisée. Avant, je ne peux plus supporter de voir la corrida. C'est la tuerie d'un
animal. Mais à votre avis, Brigitte, il faut l'interdire. Il faut l'interdire, la corrida. Parce que c'est aussi, culturellement, c'est quelque chose d'important pour...
Non, attendez. Là, je ne suis pas d'accord. Elle ne fait plus partie du patrimoine culturel français, ce qui est une bonne nouvelle.
Je continue.
Que quand il a fait ça à Frédéric Mitterrand, je lui ai envoyé une lettre lui disant qu'il venait de faire la plus grande connerie de sa vie. Ça m'avait choqué à un point épouvantable. Alors
donc...
évidemment que la corrida ne doit plus avoir lieu, parce que le sang appelle le sang et la violence appelle la violence. Et c'est pas en montrant des spectacles comme ça qu'on va résoudre les problèmes de violence.
Brigitte, alors, notre entrevue, en tout cas notre rendez-vous d'une heure se termine. On avait, alors, Laetitia, une petite question. Moi, j'en ai juste une petite pour revenir sur votre carrière cinématographique formidable. Vous disiez tout à l'heure que le cinéma était derrière vous. Malgré tout, est-ce que vous avez encore de vrais amis dans le monde du cinéma, que ce soit des producteurs ou des comédiens, avec qui vous êtes toujours en contact aujourd'hui?
Alors, je suis amie avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo et Mylène de Monjou. Et Robert Hossein.
Et vous êtes souvent en contact?
Non.
Qui sont des grands, grands amis des animaux?
Ah oui, tous. Et c'est ça du reste qui nous a empêchés de nous détacher.
Oui, c'est le point commun que vous avez tous, c'est ça. Brigitte, Laetitia avait une dernière question à vous poser.
Alors, c'est une question, en fin de compte, vous savez qu'en ce moment, il y a les épreuves du bac, et j'ai retenu un sujet philo, et j'aimerais bien que vous planchiez dessus. Le sujet, c'est tout simple, respecter tout être animal, est-ce un devoir moral?
J'ai entendu cette question, et je l'ai trouvée formidable, et j'ai vu qu'elle n'avait pas été beaucoup reprise.
Ah et bon, on la reprend, là.
Et j'ai trouvé que le fait de la poser était très intelligent de la part des gens qui posent les questions.
Et vous en pensez quoi?
Ben moi, évidemment, que je pense que c'est un acte moral.
Brigitte, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure.
Avant de vous quitter,
oui, un dernier mot.
Un dernier mot. Mangez plus de cheval, personne. S'il vous plaît, ne mangez plus de cheval. Aidez-moi. Voilà.
Eh bien voilà, le message est passé.
Bon, merci.
Brigitte, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure entière. C'était un vrai plaisir que de vous avoir. Merci.
Merci tous très fort.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Et je vous engage à aller sur le site de la Fondation Brigitte Bardot, bien entendu. À savoir que la Fondation a des animaux à l'adoption. Je sais qu'il y a eu des questions d'auditeurs qui demandaient est-ce qu'on peut adopter un chien, un chat avec vous, Brigitte Bardot? Et oui.
Bien sûr.
Il y a des refuges, il y a des animaux à l'adoption.
C'est la Fondation Brigitte Bardot.
C'est la Fondation. Et bien sûr, il y a toutes ces actions en France et dans le monde entier, donc je vous conseille bien sûr d'aller sur ce site.
Voilà, ce rendez-vous d'une heure en compagnie de Brigitte Bardot, disponible en replay comme on dit en podcast très vite sur rmc.fr. Et puis Laetitia, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
La semaine prochaine, oui.
Voilà, et dans un instant...
Merci à tous et à dimanche prochain. Et merci encore Brigitte.
Et dans un instant, après la météo, les infos de 8h sur RMC, on change d'univers avec Jean-Luc Moreau qui sera là à mes côtés pour 2 heures dédiées à l'automobile. A tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.